Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés, prêt à vous faire du bien, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors dans notre grand dossier du jour, nous allons nous intéresser dans le détail cet après-midi à la bonne santé de nos oreilles et bien sûr de notre audition. À partir de quel âge commence-t-on réellement à entendre moins bien? D'ailleurs, la perte d'audition est-elle systématique chez tout le monde en vieillissant? Nous parlerons également de ce qu'il faut faire pour en prendre soin de cette audition. Pour parler de tout cela dans le détail, nous recevrons le docteur Didier Boucara. Il est médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Ensuite, comme tous les vendredis, désormais notre chronique bien chez soi. Aujourd'hui, on va passer dans votre cuisine. Faites-vous notamment attention aux ustensiles que vous utilisez pour cuire, réchauffer, conserver vos aliments. Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous donnera quelques conseils sur la façon d'aborder en tant que parent la contraception et la prévention des infections sexuellement transmissibles avec nos adolescents.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question d'Alexandre, écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'aurais une petite question. Moi ça m'arrive très souvent, vraiment très souvent de faire des nuits blanches. La dernière là c'était ce week-end, sauf que là il m'a fallu au moins 3 jours pour récupérer. Alors d'habitude je fais juste une petite sieste et hop, le tour est joué, je suis reposé. Est-ce que vous auriez des conseils pour bien récupérer après une nuit blanche pareille et puis pour pouvoir me préparer pour le retour des soirées entre amis?
Alors moi ça me fait rire parce que je sais déjà un petit peu que vous n'allez pas du tout valider le concept de nuit blanche à répétition comme une habitude de vie, tel qu'il le décrit Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller pour récupérer d'une nuit blanche? Je ne sais même pas si on doit demander ça à un médecin. Mais
alors tout d'abord, il faut prendre conscience que le sommeil, ce n'est pas un phénomène passif. On a l'impression que quand on dort, on ferme les yeux, qu'il ne se passe rien et que finalement c'est quelque chose de naturel, mais naturel quand on respecte ce sommeil. Il faut bien comprendre qu'en journée, on est fait pour être réveillé et que la nuit, on est censé dormir et qu'on a dans le cerveau une horloge biologique qui nous dit lorsqu'il fait chaud qu'il faut être réveillé, l'horloge fait tic. Et puis le soir, lorsqu'il fait nuit, et bien que la température doit baisser, qu'on doit dormir, qu'il fait tac. Et donc les rythmes biologiques doivent être synchronisés par la lumière. Et si vous commencez à faire l'inverse, à jouer la nuit et dormir la journée, votre horloge biologique va être perturbée et derrière ça, tout le système hormonal va être impacté. Au niveau du métabolisme, on sait que vous allez prendre plus de poids, vous allez synthétiser moins de mélatonine. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas très grave, on va récupérer. Sauf que, on sait que cette mélatonine, elle a une action antioxydante. Et on a pu le prouver, notamment chez des
anti-vieillissement, hein, c'est ça.
Anti-vieillissement et donc anti-cancéreux. Ce qu'on a pu prouver chez des femmes, notamment les infirmières qui travaillent de nuit, elles font plus de cancer du sein lorsqu'elles font des roulements. Ça veut dire que lorsqu'on ne dort pas la nuit, on ne répare pas son cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut absolument essayer d'avoir des rythmes équilibrés.
Bon, alors on n'a pas de conseils comment on récupère, parce qu'il ne faut pas faire de nuit blanche en
Exactement.
Fait. Voilà, on a compris. Alors justement, là, le problème d'Alexandre, c'est parce qu'il fait du binge-watching, finalement, l'overdose de séries la nuit. Un truc qui nous guette peut-être à certains, là, avec le confinement, le nouveau confinement. Quels conseils, justement, on va en profiter, vis-à-vis de la gestion, finalement, des écrans. Peut-être, vous pouvez peut-être nous donner, là, pour les semaines à venir.
Alors, il faut bien comprendre que le sommeil va être perturbé par les écrans, vous le savez, ça va perturber cette mélatonine, l'hormone, non pas du sommeil, mais de la nuit. Et même si vous dormez en vous couchant, je dis n'importe quoi, à minuit, après être exposé aux écrans de façon massive, même si vous avez l'impression de bien dormir, si on faisait un enregistrement du sommeil, eh bien on s'apercevrait que votre sommeil est perturbé. Et il ne faut pas oublier que les Netflix et compagnie, le premier concurrent pour eux, c'est votre sommeil. Donc ils sont là pour être en permanence, vous mettre derrière ces écrans avec ces séries qui vont s'enchaîner les unes après les autres, qui vont faire que vous n'allez plus avoir de satisfaction, puisque la frustration amène le plaisir. Je vous propose par exemple de manger tous les jours votre plat préféré, bien au bout du 4e jour, vous le mangez sans saveur. Et donc, il faut aussi profiter des bonnes choses, et c'est aussi se frustrer. Frustrez-vous, mettez-vous des limites, vous allez voir que, un, vous allez mieux dormir, et puis le lendemain, vous serez content de retrouver votre série.
Pour les enfants, rapidement, qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi vis-à-vis des écrans? Là, ça va être notre meilleur ami pour les parents qui télétravaillent, notamment.
Il faut accepter d'être mauvais en cette période, il faut accepter parfois de consommer un peu plus d'écran, mais en fixant des règles. Si vous expliquez à votre enfant que c'est une demi-heure de temps d'écran, avant qu'il soit sur cet écran, il va l'accepter. En revanche, si vous lui retirez la tablette au bout d'une demi-heure, il va être frustré. La frustration ne sera pas bonne. Essayez d'être un peu plus souple le week-end.
Enfin, un petit contrat, là. On a le temps ce week-end pour les semaines à venir.
Exactement. Et puis, un contrat où on va expliquer qu'en semaine, on travaille, même s'il n'y a pas d'école. Et puis que le week-end, on peut un peu se relâcher et profiter un peu.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. À présent, on va prendre une deuxième question, celle que nous a laissée Céline, qui nous a appelée de Toulouse.
Bonjour, Jimmy. Bonjour, Mélanie. En 1984, j'ai fait une phlébite suite à une opération de la jambe. J'aimerais savoir, donc, si je peux me faire vacciner contre la Covid. Merci de me répondre. Bonne journée.
Alors Jimmy, qu'est-ce qu'on peut dire à Céline? Un antécédent de phlébite, est-ce que c'est une contre-indication à la vaccination Covid?
Absolument pas. La réponse est non. J'ai pas de grand-chose de plus à dire. Vous devez vous faire vacciner, même si vous avez un antécédent de phlébite. D'autant plus que là, c'est expliqué. Elle avait été opérée, et donc il y a un facteur de risque de phlébite. C'est différent de faire des phlébites à 20 ans sans explication.
D'accord. À ce stade, d'ailleurs, c'est quoi les contre-indications peut-être formelles à la vaccination Covid?
L'allergie grave, un des composants du médicament, c'est tout. Tout le reste, vous pouvez vous faire vacciner. On a plusieurs vaccins disponibles. On a un questionnaire, et la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir eu le Covid, le coronavirus, dans les 3 mois qui précèdent. Mais sinon, tout le monde peut être vacciné.
D'accord. Et pour revenir sur ce risque rare de thrombose, hein, parce que là, elle nous parle de phlébite, je pense que c'est par rapport à ce vaccin-là, il a été rapporté avec un seul des vaccins en plus.
Avec
hein,
AstraZeneca, on n'est pas exactement sûr de la concordance, même si effectivement, il s'est passé des choses. Il ne faut pas qu'on dise « il n'y a rien, allez-vous-en, faites-vous vacciner », il faut qu'on informe le public. Pour l'instant, les événements survenus sont arrivés chez des personnes de moins de 50 ans.
C'est pour ça qu'on a mis les précautions de ne pas vacciner cette population-là.
Je pense que c'est raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas changer les règles au cours du jeu. On apprend en fonction de nos erreurs aussi, il faut être très honnête. Mais encore une fois, on a d'autres vaccins pour vous permettre de vous protéger.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Didier Boukara, médecin ORL. Et avec lui, aujourd'hui, on va prendre soin de nos oreilles et de notre audition, bien sûr. Alors écoutez-nous bien et à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Didier Boukara. Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir.
Avec plaisir. Vous êtes médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et avec vous, on va faire un focus donc sur notre audition. Comment elle fonctionne, comment elle peut s'abîmer aussi avec le temps et les solutions bien sûr pour y remédier. Alors dans nos oreilles finalement, si on peut l'expliquer simplement, qu'est-ce qui nous permet d'entendre concrètement?
Alors en fait, ce qui nous permet principalement d'entendre, ce sont des toutes petites cellules qu'on appelle les cellules ciliées, qui sont formées d'une cellule avec des petits cils, qui vont recevoir les informations sonores par les 3 petits osselets et qui vont transformer ces informations en un influx nerveux qui va être véhiculé par le nerf auditif jusqu'au niveau du cerveau. En fait, donc, nos oreilles captent les sons, les transforment, les adaptent et c'est le cerveau qui entend.
Et ces sons qu'on arrive à capter, ça marche dès la naissance, puisqu'on sait que la vision des nouveau-nés va aller en s'améliorant. Est-ce que de la même façon, eh bien, les oreilles ne sont pas tout à fait matures à la naissance?
Non, en fait, on peut tester la réactivité auditive des nouveau-nés. Il y a même maintenant un dépistage systématique à la naissance de l'audition. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mm-hmm. Donc l'audition est mature, entre guillemets, à la naissance.
Ce n'est pas comme les yeux qui s'améliorent après. Les oreilles, elles sont prêtes, elles sont matures tout de suite. Alors, est-ce qu'elles sont très fragiles, nos oreilles, plus que nos yeux, par exemple? Je ne sais pas.
Alors, oui, en effet, puisque ces fameuses cellules ciliées dont je vous parlais il y a quelques instants sont en nombre limité. On a en quelque sorte un capital auditif à la naissance. Et ce capital n'est pas aussi important, loin de là, que celui des cellules sensorielles de la vision. Donc la fragilité en fait, de l'audition va résider dans cette petite population de cellules ciliées dans l'oreille interne.
Et ce qui va faire que nos oreilles vont se dégrader, la première chose, c'est le temps, c'est ça? Plus on vieillit, plus ces petites cellules vont disparaître?
C'est tout à fait ça. En fait, il y a un mécanisme naturel qui est un vieillissement, une maturation de l'oreille interne, avec une perte de ces cellules ciliées progressivement.
Notre peau se ride, nos oreilles vieillissent aussi, on peut dire ça, ouais.
Oui, elles vieillissent pratiquement dès la naissance. Encore une fois, c'est un phénomène naturel, d'où la précaution vis-à-vis de ce capital.
Vous dites que c'est un phénomène naturel, mais est-ce que c'est possible, par exemple, d'avoir, je ne sais pas, d'arriver à 90 ans, 100 ans, et d'entendre parfaitement? Est-ce qu'il y en a des cas comme ça?
Alors tout à fait, il y a en fait une grande variation d'une personne à l'autre. On peut un petit peu s'en douter quand on interroge la famille. Est-ce que les parents, les grands-parents entendaient très bien jusqu'à un âge avancé? Et inversement, vous avez des familles où la perte d'audition s'installe plus tôt. Alors les chercheurs travaillent pour rechercher quels sont les facteurs génétiques qui prédisposent ou non à perdre son audition plus ou moins tôt.
Et justement, à partir de quel âge on commence à perdre de l'audition? Moi, j'ai aux alentours de 30 ans.
Est-ce c'est que fini, déjà, ça y est, c'est vous êtes déjà dans le bas.
Dans le déclin.
Alors, vous êtes entre guillemets un peu jeune, puisqu'en fait, on admet actuellement que l'âge un petit peu de cap, c'est l'âge de 50 ans. On considère qu'à partir de 50 ans peut apparaître le vieillissement normal. Avant 50 ans, la perte d'audition devra faire réaliser une enquête. C'est autre chose que l'évolution naturelle.
D'accord. Combien il y a de déficients auditifs en France? Alors, si on regarde de manière un peu globale, il y a les gens qui vont effectivement moins bien entendre parce qu'ils vieillissent, et puis bon, d'autres problèmes évidemment.
Alors, on va parler en millions et en dizaines de millions, parce que finalement, la population vieillit, nous vieillissons tous plus longtemps et en meilleure santé, donc il y a un plus grand nombre de personnes âgées, voire très âgées, des seniors, que l'on appelle, et donc en fait, ce sont des millions et des millions de personnes.
La perte d'audition liée au vieillissement, on est un peu dans la physiologie là, dans cette première partie d'interview, oui. On va dire, est-ce que c'est toujours les deux oreilles en même temps ou est-ce que parfois ça peut être juste d'un côté, unilatéral?
Non, en fait, il n'y a aucune raison. Le phénomène qui va apparaître va se développer sur les deux oreilles.
Parce que parfois, on voit des personnes âgées avec un seul appareil, je ne sais pas.
Dans ces cas-là, c'est probablement qu'il y a eu un autre problème sur l'audition. Il y a peut-être eu une otite chronique, il y a peut-être eu un traumatisme, une perforation du tympan, je ne sais pas.
Mais globalement,
il faut bien dire aux personnes qui nous écoutent que le processus naturel de perte auditive touche les deux oreilles de façon progressive, de la même façon des deux côtés.
Donc on a bien compris que l'âge va faire que malheureusement on va moins bien entendre, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses, écouter la musique de façon un peu forte, certains bruits, qui peuvent aussi endommager nos oreilles?
Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'on parle de capital auditif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir exposer nos oreilles malheureusement à des accidents. Parmi ces accidents, il y a ceux qui sont impossibles à prévoir et à traiter, les explosions, les choses comme ça, mais parmi les accidents que l'on peut prévenir, c'est l'exposition à des niveaux sonores élevés. Ces niveaux sonores élevés peuvent détériorer toujours ces petites cellules ciliées et finalement faire anticiper ce processus de vieillissement attendu.
Mais des niveaux sonores élevés, ça veut dire quoi en termes de bruit? Parce que moi, je ne sais pas, mais mes voisins font du bruit souvent. Mon enfant écoute beaucoup de musique au baladeur, par exemple. C'est quoi un bruit élevé?
Un bruit élevé, c'est plus que ça. C'est l'exposition, si vous voulez, à des niveaux sonores au-delà de 100 décibels.
100 décibels, c'est quoi?
C'est une salle de spectacle avec un niveau sonore très élevé. Entre 80 et 100 décibels, on est déjà dans une zone un peu dangereuse. En dessous de 80 décibels, on a moins de risques en tout cas.
D'accord. Avec le renforcement du télétravail, on aura tendance à mettre des écouteurs, à essayer de s'isoler parce que parfois il y a du bruit à la maison. Est-ce que ça peut avoir un impact sur notre audition, le fait d'être tout le temps avec ces écouteurs à l'intérieur des oreilles, ou finalement ça ne pose pas trop de soucis?
Alors, si on prend un certain nombre de précautions, sur le plan technique, avoir un bon matériel, c'est-à-dire avoir un ordinateur et des écouteurs de qualité, et sur le plan pratique, de rester à un niveau sonore moyen, c'est-à-dire qu'on place le curseur du volume au milieu, et puis à faire une petite pause, c'est-à-dire toutes les heures et demie, toutes les deux heures, interrompre l'écoute au casque pendant environ 15 minutes.
Dans les causes qui peuvent fragiliser donc notre audition, notre capital auditif, il y a aussi certains virus, certaines bactéries qui peuvent entraîner une perte d'audition, lesquelles principalement? Et là, est-ce que c'est une perte brutale? Comment ça se passe?
Alors tout à fait, ce sont des infections qui sont de plus en plus rares, puisque en fait, maintenant, il y a des vaccinations. Je prends un exemple, c'est le pneumocoque. C'est une bactérie qui peut donner des méningites. Et dans les méningites à pneumocoque, il y a très régulièrement des atteintes auditives qui peuvent être très sévères. Vous avez d'autres virus, celui
la
des oreillons,
aussi,
les oreillons. Mais maintenant, avec l'élargissement de vaccination systématique, ce sont des situations qu'on rencontre de moins en moins.
D'accord.
Parce qu'une fois qu'on a cette perte auditive liée à une infection virale ou bactérienne, quelle qu'elle soit, là, c'est irrémédiable, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas récupérer de cette audition.
Non, malheureusement, les cellules ciliées sont détruites. Alors, on a des moyens pour réhabiliter, y compris dans les cas où il y a une surdité totale.
C'est comme une rééducation c'est...
Alors, ce n'est pas une rééducation, il va falloir remplacer en fait l'organe qui est défaillant. C'est un petit peu comme une prothèse, on va mettre dans les cas où il y a une perte totale, ce qu'on appelle un implant cochléaire, un système qui va remplacer la cochlée.
Est-ce que l'eau peut abîmer nos oreilles? C'est vrai que parfois on a de l'eau coincée dans les oreilles ou quand on va souvent à la piscine, des choses comme ça. Est-ce que juste en prenant sa douche tous les jours, on prend des risques?
Non, si le tympan est fermé, s'il n'y a pas de perforation du tympan, il n'y a pas de risque à s'exposer à l'eau. Il faut bien sûr ne pas avoir un jet très puissant, mais il n'y a pas de risque spécifique si le tympan est fermé.
Un mot des enfants, lorsqu'ils font des otites à répétition, est-ce que ça peut endommager leur audition?
Alors, à la longue, effectivement, c'est le risque, parce que si le tympan ne retrouve pas son fonctionnement normal, s'il n'y a pas une bonne élasticité, s'il se développe des phénomènes inflammatoires chroniques, ce qu'on appelle les otites séreuses, il peut y avoir une perte auditive qui va durer plus ou moins longtemps, et dans quelques rares cas, va se développer une véritable otite chronique qui va perdurer à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte.
Donc c'est des enfants qu'on suit un peu plus, ceux qui font des otites chroniques, on prend ça au sérieux quand même en tant que parents et puis les médecins.
Exactement, on est très vigilant au fait que d'une part le tympan se normalise après les otites et d'autre part que dans la progression du développement d'enfants, l'acquisition du langage et des connaissances se fait normalement.
Docteur Boucara, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous.
Europe 1.
Dans ce rendez-vous, nous allons continuer ce point très complet sur la santé de nos oreilles et sur notre audition, bien sûr, avec un constat. La plupart des personnes qui n'entendent pas correctement consultent beaucoup trop tard. Alors comment identifier cela le plus précocement possible? Qui consulter? On vous explique tout dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Didier Boukara. Vous êtes médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou et donc on parle à vos côtés de la santé de nos oreilles aujourd'hui et surtout du bon fonctionnement de notre audition. Enfin surtout comment savoir que ça commence à se dégrader de ce côté-là. Alors quels sont les signes qui montrent que l'audition commence à être défaillante? Je ne sais pas si on se rend compte tout de suite qu'on n'entend pas très bien quoi en fait.
Alors le premier signe, en fait, c'est la gêne dans le bruit. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation bruyante, un grand magasin, vous êtes lors d'un repas de famille ou dans un endroit bruyant comme une terrasse de brasserie, eh bien, vous avez une gêne à comprendre, à suivre la conversation de ce que disent vos différents interlocuteurs. Cette gêne à la compréhension est un des premiers signes. Un autre signe qui est très facile à identifier, c'est quand on regarde la télévision et qu'on augmente le volume. Maintenant, la plupart des téléviseurs ont des curseurs. Donc les personnes viennent nous dire, ben, depuis quelques mois...
Avant, je regardais années, à 30, maintenant je suis à 40 sur la télécommande.
40, voire 50.
Ouais, c'est ça.
Donc vous voyez, ce sont des premiers signes. Alors, qui sont assez insidieux. La perte auditive, en général, ça s'installe très, très progressivement. Donc en fait, grâce à nos mécanismes de compensation, la gêne ne va pas s'exprimer forcément d'emblée.
Et donc ça veut dire que si on a ces mécanismes d'adaptation, on n'est pas obligé de consulter, puisqu'on avait tendance à croire que plus tôt on consulte, mieux c'est.
Alors bien sûr, plus tôt on consulte, mieux c'est, mais en fait, on ne va pas forcément être très gêné au tout début, parce qu'on utilise des mécanismes d'adaptation, de compensation, en écoutant avec plus d'attention nos interlocuteurs. Parfois même, spontanément, on observe les mouvements de leurs lèvres pour essayer de pallier à cette déficience auditive qui commence.
Petit aparté, je reviens sur les enfants à la naissance. Vous en disiez un mot tout à l'heure. On le sait, certains naissent malentendants à la naissance. À cause de quoi en général? C'est génétique par exemple?
Alors oui, tout à fait, vous avez raison. Dans la grande majorité des cas, les surdités congénitales, c'est-à-dire qui sont présentes à la naissance, sont d'origine génétique. Et maintenant, on dispose de moyens de les dépister à la naissance. Alors, il y a quelques cas où ça peut être une infection que la mère a contractée pendant la grossesse, comme la rubéole par exemple. Mais dans la grande majorité des cas, c'est d'ordre génétique.
Rapidement, en quoi il consiste le test à la naissance? Parce qu'un bébé ne va pas vous dire « oui, j'entends à gauche, j'entends à droite ». Enfin, on a tous fait plus ou moins des tests auditifs avec un bébé. Comment on mesure ça?
Alors en fait, on a aujourd'hui deux tests disponibles qui peuvent se faire dans la maternité. Je dirais même qu'ils doivent se faire, puisque le dépistage doit être universel en France. Donc il y a soit ce qu'on appelle l'enregistrement des auto-émissions, c'est-à-dire un son qui est produit par les cellules ciliées dont je vous parlais il y a quelques minutes, soit l'enregistrement du nerf auditif, et c'est ce qu'on appelle le potentiel évoqué auditif. Ces deux examens sont automatisés, simplifiés de façon à ce que le personnel des maternités puisse le réaliser, en sachant que souvent les bébés et leur maman ne restent que quelques jours.
Alors si on revient à la presbyacousie, quand l'audition baisse avec l'âge, et bien avec le vieillissement de la population, on peut imaginer qu'on va avoir de plus en plus de malentendants.
Une épidémie même.
Oui, et que les ERL ne connaîtront jamais le chômage d'ailleurs.
Non, c'est...
Une voie d'avenir.
C'est déjà le cas, je vous rassure, entre guillemets. Oui, en fait, il y a un gros travail, il y a vraiment une chaîne de prise en charge de la presbyacousie, le dépistage, l'identification et puis la prise en charge avec l'appareillage. Donc c'est vrai que en termes de soins de santé publique, c'est vraiment un élément important.
Le problème, c'est que, vous me l'avez dit en préparant cette émission, les patients aujourd'hui, ils ont des signes, vous dites c'est progressif, ça s'installe insidieusement, mais donc du coup, ils consultent finalement trop tard, ça clairement on peut le dire aujourd'hui, c'est un constat d'échec.
Malheureusement, souvent les patients nous consultent un peu tard, quand ils sont un peu presque renfermés sur eux-mêmes, en rupture de communication dans certaines situations. Donc là, dans ces cas-là, la perte auditive peut être déjà relativement évoluée.
Comment on l'explique qu'ils tardent autant les patients à venir? C'est gênant. En fait, c'est un signe de vieillissement. On a l'impression d'être vieux, quoi. C'est ça. Donc on recule. Ouais.
Oui, tout à fait. Si vous voulez, on a des images un petit peu anciennes, le sourdingue.
Avec le gros sonotone. Ouais,
le
c'est
professeur
ça.
Tournesol qui répond à côté chaque fois qu'on lui parle. En réalité, en fait, on peut anticiper. Et bon, ça reste encore des situations que l'on rencontre au quotidien. Inversement, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de communication, de support auditif pour être un petit peu dans le coup. Et un certain nombre de personnes viennent nous voir maintenant précocement dès qu'elles ont une petite gêne.
Parce que justement, quel est le risque de se faire appareiller tardivement une fois que l'audition a vraiment baissé? On peut avoir quoi comme conséquence quand on entend moins bien, à part le fait de moins entendre ses proches?
Alors, les conséquences, elles sont multiples. Si vous voulez, elles sont d'abord sur la qualité de vie en fait, au quotidien. On va perdre un certain nombre d'activités, on va renoncer à faire un certain nombre de choses. Et puis surtout, sur le moyen et le long terme, on sait qu'il y a un impact sur d'autres fonctions cérébrales, en particulier sur la mémoire. Et ça, ce sont des éléments qui ont été identifiés et bien cadrés depuis plusieurs années. C'est le lien entre la déficience auditive et les troubles de la mémoire, y compris les plus sévères, comme la maladie d'Alzheimer.
Ah oui, si on ne fait rien, en gros, le cerveau devient un peu feignant aussi, étant plus vite malade, quoi. C'est ça qu'on peut dire, si on n'entend pas bien et qu'on ne fait rien, quoi.
Alors en fait, tout n'est pas clairement identifié, mais on sait que si on compare des groupes de personnes âgées du même âge, ceux qui vont entendre le mieux ont moins de risques de développer la maladie d'Alzheimer, par exemple, que ceux qui entendent très peu.
Bah, c'est un argument
mal.
Motivant pour s'en occuper, en tout cas, hein, c'est clair.
Alors du coup, quelle serait la recommandation pour savoir à partir de quand on a une baisse d'audition ? À quel âge il faut venir vous
Jimmy
voir ?
Jimmy veut aller chez l'ORL, là, du coup, il est très inquiet.
Et tous les combien de temps on surveille ça ? On sait que l'ophtalmo, on va y aller tous les ans, tous les deux ans. Est-ce que ce serait la même chose pour l'ORL ?
Bon, l'idée, si vous voulez, c'est d'une part de pouvoir dépister, c'est-à-dire d'avoir des tests faciles à réaliser, pas forcément par le spécialiste ORL. Et puis, dans un second temps, de fixer des repères, par exemple à 50 ans, 65 ans, des âges clés un petit peu de la vie, pour avoir une évaluation complète de l'audition et décider si on va dans la route et dans la décision d'un appareillage bilatéral.
Donc 50 ans pour une première consultation, c'est bien.
C'est bien. Bon, encore une fois, moi je pense qu'avec les tests de dépistage, on va avoir un moyen de repérer vraiment précocement parmi cette population de 50 ans, ceux qui sont les plus gênés.
Et justement, en ce moment, on est confiné, la situation elle est un peu compliquée. Je ne sais pas comment ça se passe pour les ORL, ouais. mais admettons, aujourd'hui, il y a des applis, il y a des choses intéressantes, je crois, qu'il existe, qu'on peut même faire un petit mini-dépistage, enfin pré-dépistage chez nous, avec une appli notamment qui s'appelle Aura, je crois.
Tout à fait, Aura, le test qui a été développé par la...
H-O-R-A.
Ouais. Voilà, qui est un test en fait, de dépistage. On peut télécharger sur son smartphone et qui permettent de faire un test où il s'agit de répéter un certain nombre de chiffres dans le bruit qui sont présentés avec des niveaux sonores.
C'est fiable hein, déjà comme appli. Ouais.
Ça reste un test de dépistage et au terme de ce test, on va être orienté à consulter ou non un spécialiste ORL.
Donc l'appli c'est Aura, H-O-R-A. Docteur Boukara, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, on revient dans un instant, on vous dit tout juste après sur les tests pour mesurer son audition et sur les moyens évidemment d'arranger les choses. Comment se passe l'appareillage quand il est nécessaire ? Quel suivi ensuite quand la perte d'audition est là ? Comment suivre son évolution ? On y revient très vite, restez sur Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Didier Boukara. Je rappelle que vous êtes médecin ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors juste avant, on disait, docteur, que malheureusement aujourd'hui, les personnes qui commencent à avoir des problèmes d'audition consultent trop tard, bien souvent. Justement, quand on consulte pour ça, quand on vient vous voir, l'ORL, comment très concrètement vous allez tester mon audition ?
Alors vous savez, la consultation elle est assez bien déterminée. On va d'abord bien sûr vérifier qu'il n'y a pas une cause simple de perte d'audition comme un bouchon de cire, un bouchon de cérumen dans les deux oreilles. Et puis on va réaliser ce qu'on appelle un audiogramme. C'est un test de l'audition qui est un petit peu l'évaluation du spectre auditif pour chacune des oreilles. Donc ce test comprend deux parties. Une partie où on va vous demander de signaler quand vous percevez les sons de différentes fréquences.
Vous mettez un casque sur les oreilles,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, avec un casque, les graves et les aigus, l'oreille droite puis l'oreille gauche. Et puis dans un second temps, on va faire ce qu'on appelle l'audiométrie vocale. C'est-à-dire un test d'intelligibilité, de compréhension. Donc par le même support, par le même casque, on va présenter des listes de mots, c'est des mots du vocabulaire le plus simple, et on va demander au patient de répéter ces mots en faisant varier le niveau sonore auquel on les présente. Et puis on dispose maintenant d'un test qui est plus récent, qui s'appelle l'audiométrie vocale dans le bruit, qui est très intéressante parce qu'elle permet de se mettre plus dans les conditions écologiques des patients qui viennent nous voir en nous disant « je suis
gêné ». Vous nous mettez l'ambiance bistrot, en plus ça nous manque en ce moment et le test se réalise comme ça.
Alors, vous n'êtes pas loin de la réalité puisque dans certains tests, on utilise ce qu'on appelle un bruit cocktail party.
Ah génial, on va venir vous voir juste pour le souvenir alors, hein, c'est ça.
Donc il y a un bruit en fait comme on l'a dans un cocktail avec des teintes de verre et des bruits de personnes qui échangent.
On se fait dépister puis en même temps il y a un peu de nostalgie, c'est bien.
Alors vous avez aussi un autre outil, l'acoumétrie au diapason. C'est ça ? En quoi ça consiste ?
Alors en fait, là, on est un peu plus dans le dépistage que dans le diagnostic. En fait, quand on utilise un diapason, quand on fait vibrer, il y a deux éléments que l'on peut tester. C'est la nature de la capacité des oreilles du côté droit et du côté gauche en présentant le diapason au même niveau sonore des deux côtés. Donc, ça permet de repérer s'il y a une différence entre les deux côtés. Et puis, de façon plus particulière, on peut tester ce qu'on appelle la conduction osseuse. C'est-à-dire que quand on fait vibrer le diapason et qu'on le met sur la boîte crânienne, eh bien, on se rend compte qu'on entend. Parce que la conduction osseuse se fait à travers les os du crâne, c'est-à-dire que les os du crâne vont transmettre l'information auditive jusqu'à l'oreille interne.
Celui-là, vous le faites systématiquement à une personne âgée qui vient consulter ou c'est plutôt l'audiogramme d'office ?
Alors, en fait, si vous voulez, on va d'emblée à l'audiogramme parce que ça va être plus précis, ouais. Ça va vraiment évaluer le niveau d'atteinte auditive pour les deux oreilles et ça va être aussi un critère pour décider ou non de l'appareillage auditif.
Combien de temps ça dure, un audiogramme ?
Un audiogramme tel que je viens de vous le décrire dure entre 15 et 20 minutes chez un adulte. Alors la petite parenthèse, chez les enfants, c'est complètement différent. Ce sont des personnes qui sont formées à l'audiométrie de l'enfant parce qu'il y a des tests où on va observer le comportement de l'enfant. Donc là, je vous parle de l'audiométrie chez l'adulte.
D'accord.
Lorsqu'un os est cassé, on peut le réparer. Dans certaines maladies, on donne des médicaments. Mais pour l'oreille, est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce que vous arrivez à améliorer l'audition avec des traitements particuliers ou une chirurgie?
Alors, malheureusement, dans la grande majorité des cas, le phénomène de vieillissement du système auditif, c'est la perte des cellules et on ne sait pas les remplacer. On ne connaît pas de médicaments qui vont régénérer ces cellules. Par contre, on sait, dans les cas les plus extrêmes où la perte auditive est extrêmement importante et pour laquelle les appareils auditifs ne seront pas suffisants pour redonner un niveau de compréhension satisfaisant, on sait mettre ce qu'on appelle un implant cochléaire, c'est-à-dire un petit faisceau d'électrodes que le chirurgien va introduire dans la cochlée et qui, là, va redonner l'audition.
Ça, c'est efficace toujours ou...
Alors, c'est le plus souvent efficace. Bon, ça reste des indications rares et ça nécessite une évaluation très précise pour décider ou non de faire cette procédure qui, encore une fois...
C'est pas un truc que vous faites tous les jours, quoi.
Non. C'est une affaire de spécialiste pour des patients qui ont été évalués en tant que candidat à ce type de procédure.
D'accord. Alors ensuite, il y a évidemment donc les fameuses prothèses auditives. Il y a les internes et les externes. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a une qui est mieux que l'autre? Je ne sais pas.
Alors, si vous voulez, que ce soit pour ce qu'on appelle donc les intras, c'est-à-dire les dispositifs qu'on va mettre à l'intérieur du conduit ou les contours qui vont avoir cette petite partie située derrière le lobe de l'oreille, derrière le pavillon de l'oreille, pardon, la technologie évolue très rapidement. C'est le traitement de signal tel qu'on l'a dans notre smartphone. Vous voyez, il y a des capacités technologiques très puissantes. La différence, elle va être en particulier sur l'aspect un peu esthétique, puisque les prothèses en intra-auriculaire sont beaucoup plus discrètes. Et puis aussi en disposition de fonctions qui sont peut-être un peu plus nombreuses dans les contours d'oreille. Et dans les pertes auditives les plus importantes, les intras sont souvent insuffisants en termes de puissance.
Les intras, c'est pour des petites surdités et les autres pour les grosses? Enfin, je ne sais pas si je peux
schématiser
comme ça.
Schématiquement, oui, mais la technologie évolue tellement rapidement qu'on a des intras qui peuvent répondre à des pertes auditives parfois plus importantes que ce n'était le cas il y a quelques années. Le conseil, c'est d'aborder la discussion en fait avec l'audioprothésiste, qui est vraiment le professionnel de l'appareillage et qui pourra, pour chaque personne, faire proposer l'un ou l'autre, voire l'un ou l'autre de façon sélective.
Mmh. Alors depuis peu, il y a ce qu'on appelle le 100% santé pour les prothèses auditives. Est-ce que ça a vraiment changé la donne? Est-ce que ces appareils qui sont pris en charge dans ce panier de soins sont vraiment de bonne qualité? Ou est-ce que c'est des trucs un peu au rabais?
Non, je crois que il y a eu un effort majeur du point de vue politique au sens large pour que tous les Français qui ont une perte auditive qui justifie un appareillage puissent disposer de dispositifs de qualité. Ce ne sont pas des appareils au rabais, ce sont des appareils qui permettent de compenser et d'avoir un niveau de compréhension élevé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tout un tas de gammes d'appareils auditifs et qu'au-delà de ce type 1 d'appareil auditif...
Mais qui suffit pour avoir une vie, satisfaisante quoi, hein, ouais. C'est ça, complètement.
Après, à perte auditive plus importante, on peut être amené à porter le choix vers d'autres dispositifs.
Une fois qu'on est appareillé, est-ce qu'on a, le jour où l'audioprothésiste me met mes prothèses, est-ce que j'ai un bénéfice immédiat ou est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel il faut un temps d'adaptation? Moi, je me souviens de ma grand-mère qui a mis... presque un an, je crois, avant d'être confortable, finalement, avec ses prothèses.
Alors, vous voyez, ce que vous dites, c'est un point important, c'est que vous parlez de votre grand-mère. Peut-être qu'elle a été appareillée un peu tardivement.
Très tard,
Et ça, c'est un élément, si vous voulez, qui rajoute, entre guillemets, une difficulté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un temps d'adaptation qui va être de l'ordre de 15 jours, un mois, deux mois. Pourquoi? Parce que le cerveau doit s'habituer à ces nouvelles perceptions auditives. Et puis, surtout, il faut que... La relation entre l'audioprothésiste et le patient fasse que l'audioprothésiste règle de façon optimale pour chaque patient l'appareil, pour bien répondre à ses attentes, aux situations qu'il rencontre dans la vie quotidienne, qui ne sont pas les mêmes pour chaque patient.
Donc si je me fais appareiller à 60 ans, ça sera sûrement plus efficace rapidement que si je me fais appareiller à 102 ans, quoi, c'est
oui,
ça
Oui, probablement, ouais. Et surtout, le temps d'adaptation sera raccourci, mais il est nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une adaptation individuelle qui va être la clé de la réussite, entre guillemets.
Alors, une fois qu'on est à Paris, l'audition va peut-être continuer de s'altérer. En tout cas, on peut perdre encore des décibels. C'est-à-dire qu'il faut continuer de se surveiller, mais à quel rythme dans ces cas-là?
Alors, en fait, cette surveillance, elle est faite à la fois par le médecin ORL et surtout par l'audioprothésiste qui voit beaucoup plus régulièrement le patient, qui va faire des tests, qui va regarder sur ces tests s'il y a une dégradation inhabituelle. Effectivement, vous avez tout à fait raison, la perte va continuer à progresser, mais le fait d'appareiller et d'avoir appareillé un petit peu en amont va permettre de répondre progressivement en modifiant l'amplification de façon à l'adapter à l'évolution de l'audition.
Quand on est appareillé, on perd moins vite. Je veux dire, ce truc-là qui est inéluctable, on va perdre de l'audition, on vieillit, les oreilles vont continuer à vieillir avec les années. Est-ce que le fait d'être appareillé, ça va peut-être ralentir un peu la perte d'audition? On ne sait pas, peut-être.
Alors, c'est quelque chose qui est difficile à montrer, parce qu'il faudrait comparer un groupe du même âge appareillé, non appareillé. Bon, c'est des choses qui ont été faites et qui ont été bien déterminées. Ce qui est certain, c'est qu'au niveau de l'activité cérébrale, le fait d'être appareillé préserve le système auditif dans sa globalité.
On va vieillir globalement moins vite, c'est ça.
Alors, on a bien compris le rôle important des oreilles et de l'audition. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour chouchouter nos oreilles? Alors, on a compris le bruit, mais est-ce qu'il y aurait des petites astuces qu'on pourrait tous appliquer tous les jours pour essayer de limiter la casse?
Vous avez cité le risque principal, c'est l'exposition au bruit. Bon, après, il y a malheureusement des accidents dans la vie. On peut avoir un
traumatisme. Il n'y a pas des compléments alimentaires pour avoir des bonnes oreilles. On sait qu'on peut prendre des trucs pour protéger son cerveau, des trucs pour protéger ses yeux. Il n'y a rien, il n'y a pas un aliment miracle pour protéger nos oreilles. Ça n'existe pas.
Malheureusement, non. Mais par contre, la prévention cardiovasculaire au sens le plus large, c'est-à-dire la prévention d'hypertension, du diabète.
Manger sainement, méditerranéen, bouger, ça sera bon pour les oreilles aussi, c'est
exactement, réduire le sel. Tout ça va protéger le système cardiovasculaire. Et l'oreille, elle est, comme tous les organes, vascularisée. Donc sensible aux facteurs de risque vasculaire.
En ce moment, c'est pas d'actualité, mais quand on va pouvoir retourner à des concerts, on sait c'est risqué. On pense surtout à nos jeunes qui vont parfois les enchaîner, même des festivals où on va écouter la musique très fort pendant de longues heures. Est-ce que des boules qui est, par exemple, les mettre dans la poche de notre gamin, c'est intéressant?
C'est bien, même un peu mieux peut-être même que des boules qui est tout simples. Vous avez des bouchons protecteurs d'oreilles. Et d'ailleurs, certains organisateurs de spectacles font systématiquement
la distribution
à l'entrée de la salle de spectacle. Ce qui permet, pour ceux qui ont une petite appréhension et donc qui ne connaissent pas un petit peu la sensibilité de leurs oreilles, de vraiment se protéger.
D'ailleurs, est-ce que les enfants sont plus fragiles que les adultes? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut qu'on fasse encore plus attention?
Il n'y a pas d'élément particulier qui permette de le dire, mais il faut faire attention quand on a des jeunes enfants, voire des très jeunes enfants.
On ne va pas se coller au baffle du concert.
Il faut éviter d'aller dans des concerts parce que l'enfant, lui, ne va pas pouvoir exprimer sa souffrance auditive.
Et donc c'est surtout ça. Merci beaucoup, docteur Boukara, d'avoir été avec nous cet après-midi et pour cet éclairage donc très précis sur notre santé auditive. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique bien chez soi. Nous passons dans votre cuisine avec le docteur Jimmy Mohamed. Vous inquiétez pas, il va pas nous donner de conseils gastronomiques, mais simplement des astuces pour utiliser les bons ustensiles, par exemple dans les bons matériaux, pour éviter certains polluants qui pourraient se retrouver dans notre assiette. A tout de suite sur Europe 1. Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors à présent, on va passer à notre séquence bien chez soi. Et aujourd'hui, on va s'immiscer dans votre cuisine. Faites-vous attention aux matériaux des ustensiles que vous utilisez pour cuisiner, réchauffer ou même conserver vos aliments. Pourquoi faut-il éviter au maximum le plastique? Pour l'environnement déjà, mais aussi pour notre santé. Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger sur ces sujets. On écoute son micro-trottoir.
Cuisiner sans danger, utiliser les bons matériaux.
Ne pas utiliser l'aluminium directement sur l'aliment. Je déconseille parce que c'est pas très bon.
Pas du tout, et puis on jette l'aluminium. Toutes les casseroles en aluminium ne sont pas bonnes.
Si on peut privilégier des poêles en cuivre ou en fonte, c'est mieux.
J'avais vu une étude qui disait que les plaques en plastique étaient beaucoup plus atteintes avec les bactéries que celles en bois.
Du plastique dans le micro-ondes, ça dépend s'il est épais ou pas.
De base, le plastique en cuisine, c'est pas bon du tout.
Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention avec le micro-ondes parce que ça fait exploser des choses.
Souvent, des gens mettent, je sais pas, un plat réchauffé comme un cordon bleu ou un steak au micro-ondes et c'est pas bon du tout, ça enlève tout ce qui est bon pour le corps.
Bon alors Jimmy, la cuisine c'est votre élément préféré, c'est votre pièce préférée je crois dans la maison d'ailleurs, vous me le dites régulièrement. On va passer donc en cuisine pour cette séquence et on va commencer par la règle numéro 1. Il n'y a pas besoin de savoir cuisiner pour ça, mais chasser le plastique c'est important pour l'environnement mais aussi pour notre santé. Pourquoi?
Car les plastiques sont bourrés de perturbateurs endocriniens. Alors on a tous entendu ce nom un jour, ça paraît chiant et c'est vrai que c'est chiant les perturbateurs endocriniens parce que ça a un impact sur votre santé. Alors on fait attention à ce qu'on mange, on mange bio, on fait attention et c'est une bonne chose, mais on ne fait pas attention avec les récipients dans lesquels on va conserver ces aliments ou avec lesquels on va cuire notamment ces aliments. Et il y a un exemple tout simple, on a parlé souvent du bisphénol A, on sait que c'est contenu dans certains plastiques, c'est un perturbateur endocrinien et vous avez sur certains emballages sans bisphénol A. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas remplacé par des choses encore plus toxiques. Et donc souvent, sur les plastiques, on n'a pas la liste des ingrédients et sans le savoir, on mange l'équivalent d'une carte bleue en plastique toutes les semaines. Mais donc, oui, notre alimentation est bourrée de plastique. Et évidemment, ça a un impact sur notre santé.
D'accord. Alors bon, les spatules, admettons, je vais enlever de mon plastique. Hein, je fais la chasse au plastique dans mes placards. Les spatules plutôt en bois, les planches à découper, on va dire aussi. Bon, il y a le bois, il y a l'inox, il y a d'autres matériaux pour tous ces ustensiles. Mais attention aussi aux récipients qu'on utilise pour stocker notamment les restes, pas que pour cuisiner et chauffer. Hein.
Exactement. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut privilégier le verre si on peut. Alors le film plastique aussi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des toiles en tissu avec des cires d'abeilles.
Les wraps. Je ne sais même pas comment on dit. Mais...
J'ai fait exprès de ne pas dire le mot parce que je me suis dit que vous allez le dire exactement. Et donc, il faut faire attention. Et tous les récipients dans lesquels on va stocker des aliments, eh bien, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est de ne pas chauffer. Donc, vous pouvez de temps en temps...
On
si
a
vous
encore
avez...
tous quelques tupperwares
voilà.
à la maison.
Mais surtout, on ne les met pas au micro-ondes. Voilà. On évite ça. À ce moment-là, on les transvase dans son assiette.
On conserve dans le réfrigérateur ou dans le plastique, dans le tupperware. Et ensuite, quand on va chauffer, on le met dans une assiette. Quoi. C'est
exactement.
Ça, par exemple.
Et le biberon, si on peut, notamment pour les enfants, acheter un biberon en verre, on sait que c'est plus fragile. Mais souvent, le biberon, eh bien, on va le réchauffer dans le micro-ondes parce qu'à 3h du matin, on n'a pas le courage de le faire chauffer dans une casserole. Voilà, c'est des petites astuces du quotidien.
Très bien. Alors, pour chauffer, justement, par exemple, pour faire frire des aliments, attention aussi au revêtement des poêles et autres casseroles. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, Jimmy ?
Alors, la plupart des poêles, en tout cas celles qui sont le moins chères, elles sont en aluminium. Il y a le téflon, le céramique, le cuivre. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais s'il y a un conseil que vous devez retenir, c'est d'éviter de les rayer ou de les utiliser si vous voyez que le fond est un peu abîmé. Puisqu'à ce moment-là.
Oui, c'est là que les particules, de quel que soit le matériau, finalement, vont
exactement.
Aller dans la nourriture.
Et elles vont se mélanger avec l'alimentation. Et puis, regardez dans votre cuisine, vous avez toujours cette spatule dont le fond est un peu
cramé. Quoi,
exactement.
Peu
et bien, si
fondu,
ça a cramé dans la spatule, ça a cramé dans l'aliment et donc on en a mangé.
Donc, celle qui est fondue, on la jette, quoi, en gros. Hein. Mais finalement, Jimmy, on ne va pas devenir complètement parano non plus. Les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas non plus un risque mortel ce soir. Je ne suis pas obligée ce soir d'aller jeter ma batterie entière de cuisine.
Non, mais elles vont quand même perturber le système hormonal avec notamment un effet cocktail. Hein, dans les perturbateurs endocriniens, 1 plus 1 ne fait pas 2, ça fait 10. C'est plus la dose qui fait le poison, c'est l'association des perturbateurs. Il y a aussi des fenêtres d'exposition. Attention avec les enfants, les femmes en âge de procréer ou les femmes enceintes. Et puis une fois qu'on est un peu plus vieux ou âgé, on a un peu plus le temps. Faites-le par étapes, progressivement. Jetez ce qui est abîmé et au fur et à mesure, c'est des petites habitudes mais qui sont bonnes pour votre santé.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Soyons vigilants donc pour notre santé, y compris dans la cuisine.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être, la sexualité, l'amour, tout ça, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. C'est Catherine Blanc qui rentre en scène à présent à nos côtés. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va finir la semaine avec cette question de Marjorie qui nous dit la chose suivante. J'ai pris l'habitude d'acheter des préservatifs et de les déposer sur le lit de mon fils qui a 17 ans. Je ne connais rien à sa vie sexuelle, mais j'ai tellement peur qu'il attrape une maladie grave. Pensez-vous que je dois lui en parler ? Catherine, on le sait, c'est pas facile de parler sexualité avec son adolescent. On a souvent d'ailleurs des questions d'auditeurs en ce sens. Pourquoi c'est si difficile là ? Il ne s'agit pas tellement de lui parler de sa sexualité, mais de lui dire de faire de la prévention plutôt sexuelle par rapport aux maladies, la contraception, tout ça, c'est des choses pas très... Enfin, c'est pas intime, c'est normal, non ?
C'est normal parce qu'évidemment, le rôle d'un parent, c'est de protéger son enfant. Simplement, pour le protéger, ce n'est pas de l'empêcher, c'est bien évidemment de lui donner tous les moyens de sa liberté.
Elle lui dépose des préservatifs, donc c'est ce qu'elle fait déjà.
Et donc, à ce titre, les préservatifs. Ceci étant, c'est quand même une façon curieuse. C'est-à-dire que poser des préservatifs sur le lit de son adolescent...
Sans savoir rien, en plus. Hein.
Sans rien savoir, sans que l'adolescent lui-même ait demandé des préservatifs, c'est comme une injonction de faire l'amour. Certes, elle informe qu'il y a du risque et donc il faut un préservatif pour se protéger du risque, mais à la fois, cette maman, en posant des préservatifs sur le lit, elle informe à son enfant qu'il est censé être sexuellement
actif. Il est temps, ouais, c'est ça.
Voilà, donc ce qui n'est pas très souhaitable, puisque l'enfant peut d'abord ne pas être dans ce timing-là. Il peut avoir le sentiment du coup que maman participe de ma sexualité, ce qui n'est pas en termes fantasmatiques non plus idéal. Donc je crois qu'il ne faut pas que, d'abord que cette maman s'interroge sur les peurs qui sont les siennes, c'est-à-dire quelles sont les peurs fondées, pas fondées, etc. Pourquoi c'est elle et pas son mari, par exemple ? Pourquoi ce n'est pas une conversation d'homme qui se fait autour du sujet de la sexualité masculine, puisqu'il s'agit d'un garçon ? Et puis aussi, pourquoi j'ai si peur d'en parler à mon fils, tout en symboliquement...
Arriver avec, mais sans parler, c'est un peu délicat. Par contre, arriver avec, en ouvrant la discussion, là, ça serait un peu différent, quand même.
Oui, c'est-à-dire, on peut dire, je ne sais pas où tu en es, chérie, de ta sexualité.
Mais hop, j'ai des préservatifs.
Non, pas comme ça, mais si tu avais besoin, tu sais que la sexualité, les enfants le savent, mais le dire, tu sais que c'est pas anodin, que tu dois te protéger, tu dois protéger ta partenaire, ta ou ton partenaire, donc tu sais que les préservatifs sont là pour ça. Si tu n'en as pas les moyens toi-même, je peux te les acheter ou je peux te donner des sous, ce qui me paraîtrait le mieux d'ailleurs. pour qu'il puisse aller s'acheter ses préservatifs, qu'il fasse cette expérience-là. Parce que sinon, demain, maman n'en achètera plus. Est-ce que ça doit être sa petite copine qui en achète ?
Bah, surtout qu'elle dit qu'elle a pris l'habitude d'acheter des préservatifs.
Genre, elle a acheté un stock plein, s'il faut, il n'en a pas besoin.
Régulièrement,
tous les lundis, tous les week-ends,
elle a une valise pleine.
C'est ça, c'est à la fois les stylos, les chaussettes et puis les préservatifs. C'est presque malsain, non ? Est-ce qu'à 17 ans, on peut imaginer qu'il soit suffisamment en autonomie pour avoir un peu d'argent de poche et puis gérer son budget ? Et puis, évidemment, s'il n'a pas suffisamment d'argent, bah, lui donner un peu plus d'argent pour acheter des préservatifs et que ce n'est pas un poste de dépense unique, surtout s'il en a besoin de beaucoup. On ne connaît pas son activité, mais ça, c'est un autre débat. Mais ça, c'est assez bizarre, non ?
Bah, c'est étrange parce que la sexualité est par essence l'expression d'une liberté et de la liberté de l'adulte, de l'infidélité aux parents. Donc, c'est un moment d'envol. Or là, évidemment, c'est une sorte de dépendance au moment où l'enfant doit partir, quitter sa mère, son père, symboliquement. Eh bien, tout d'un coup, maman prend l'habitude de garder le lien par le biais de ce préservatif. Ça en dit long sur la relation de la mère et du fils. Ça en dit certainement long sur l'histoire de la mère, peut-être, autour de ce sujet-là. Et en tout cas, bien sûr, je ne peux que conseiller le fait que cette maman aborde le sujet avec son fils.
J'ai pris l'habitude, s'il faut, il a pris l'habitude de les jeter, lui. Enfin, c'est un truc interminable. Autant qu'il... C'est bizarre qu'il ne lui dise rien, d'ailleurs, lui non plus, l'adolescent. Mais ça peut être plus difficile
parce
pour
que,
lui, je
parce
comprends.
Que, vous comprenez que dans la mesure où le parent, qui est l'adulte, est en difficulté de mettre des mots sur un sujet, comment l'enfant pourrait-il, lui, en avoir la compétence avec ce parent-là qui est coincé par sa propre pudeur. Donc, une sexualité dont il peut parler très aisément, certainement avec ses pères, mais pas avec sa mère ou son père, parce que justement, les parents bottent en touche, tout en étant extrêmement, d'une certaine manière, invitante à l'acte sexuel, qui, encore une fois, n'est peut-être pas l'objet de la vie de ce jeune homme. Et si tel est le cas, doit le renforcer dans son doute quant à lui, puisque justement, je n'ai pas encore fait l'amour et, d'après mes parents, je suis censée le faire. La logique veut que l'enfant fasse l'amour en se disant « Ouh là là, mes parents pensent que je suis encore un bébé, alors que moi, je suis déjà du côté des adultes, je fais l'amour. » Et là, c'est peut-être potentiellement l'inverse. Donc, je crois qu'il faut faire attention de ne pas brusquer les choses.
L'initiative était louable, mais c'est maladroit.
Voilà, je pense que c'est moins qu'on puisse.
Très bien. Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux, comme toujours. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à tous.